Et donc, bienvenue pour un nouveau podcast de Tout le monde sur Rollist, pour un nouvel épisode d'En demi-teinte. Et encore une fois, je ne suis pas seul parce que je m'attaquais à une œuvre un petit peu difficile, une œuvre qui s'appelle Pièces de guerre, qui est une série de pièces de théâtre de l'auteur Edward Bond, que vous connaîtrez sûrement beaucoup moins qu'Henrich. Et donc, Edward Bond, qui est un dramaturge et non pas un agent secret au service de Sa Majesté, a écrit une série de pièces de théâtre que je trouve, et que peut-être la personne qui m'accompagne trouve aussi, qui peut avoir pas mal de similitudes avec un jeu de rôle dont je parle souvent dans ce podcast, qui s'appelle L'Influenza. Est-ce que être mystérieux qui est dans l'ombre, est-ce que tu pourrais te présenter, c'est-à-dire dire tes pronoms, tes accords, et éventuellement te présenter en deux, trois mots?
Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde. Moi, c'est Felondra. Je me genre au masculin avec les pronoms il. Vous me connaissez peut-être par mon activité sur Une pincée de fel, un blog que j'anime depuis maintenant un an, en tout cas au moment de l'enregistrement de ce podcast. Je suis aussi actif sur les ateliers imaginaires, etc. Et sinon, par ailleurs, je suis comédien professionnel. J'ai fait une école de théâtre qui m'a amené à m'intéresser à pas mal d'auteurs, dont et en fait, Edward Bond, je l'ai croisé parce que j'écrivais une pièce de théâtre qui était un peu une espèce d'apocalypse à la belge, sur lequel il est peut-être pas très utile qu'on vienne ici. Et en le faisant lire à des amis, une amie à moi m'a dit, mais il faudrait que tu lises Edward Bond, ça ressemble vachement à ton texte. Et c'est ça qui m'a fait lire Edward Bond. Voilà.
Ok, moi je te remercie Philandra. Donc moi c'est toujours Arjuna, j'utilise toujours les pronoms elle et yel et je me genre au féminin. Et en ce qui concerne ma rencontre avec Edward Bond, j'avais une prof de français un peu folklorique quand j'étais en baccalauréat, et baccalauréat professionnel, ça j'entends. Et je lisais et je relisais pas mal L'étranger d'Albert Camus, et je crois qu'elle m'a dit un truc genre c'est vraiment très déprimant. Tu devrais lire Edward Bond, c'est encore mieux. Et c'est vrai que quand j'ai l'occasion de faire du post-apocalyptique en jeu de rôle, parce qu'on fait souvent du post-apo en jeu de rôle, je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent cherché du Edward Bond sans vraiment le trouver. Félandra, comment tu. Enfin, si tu voulais présenter. Donc la série Pièces de guerre et peut-être l'auteur de manière plus générale, moi j'avoue que je le connais très peu, mais si tu veux le présenter en quelques mots, sa série de pièces, est-ce que déjà c'est envisageable pour toi de le présenter en quelques mots ou est-ce que c'est trop obscur?
Alors, la série de pièces, donc pièces de guerre, oui, ça je peux la présenter en quelques mots. J'avoue que je ne me suis pas trop penché sur la biographie d'Edouard Bond. Il me semble qu'en résumé, Edouard Bond, c'est effectivement un dramaturge, metteur en scène, qui a écrit une série, enfin toute une série de pièces, dont en fait pas mal qui étaient des pièces. Alors, il me semble qu'il a écrit pas mal de pièces pour enfants, mais ça, il faudrait que je relise un coup. Donc ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de le diffuser. Mais donc, sur Edouard Bond, je ne connais pas tant que ça, je ne me suis pas penché tant que ça sur lui. Par contre, donc ça, ces trois pièces, pièces de guerre, ça, je peux les présenter rapidement. Donc, c'est une trilogie. Le premier épisode s'appelle Rouge, Noir et Ignorant. Le deuxième épisode s'appelle La Furie des Nantis. Et le troisième épisode s'appelle Grande Paix. Et cette trilogie est parue notamment à l'Arche, qui est une édition qui édite énormément de pièces de théâtre. Les deux premiers épisodes, Rouge, Noir et Ignorant et La Furie des Nantis, à deux font une centaine de pages et sont dans un tome. Et Grande Paix fait 150 pages environ et est dans un autre tome. Alors au niveau de l'histoire rapidement, en quelques mots, dans Rouge, Noir et Ignorant, en fait, on a un monde qui est au bord de l'apocalypse et il y a une espèce de narrateur qui s'appelle le monstre qui va présenter aux spectateurs différentes scènes de différentes scènes de la vie humaine. Et d'ailleurs, il dit
D'ailleurs,
Voilà.
oui, ouais, tu l'en stocks.
Ouais, je les ai là sous les yeux. Donc voilà. Donc en fait, on est dans un monde au bord de la destruction. Et une mère vient présenter son fils, qu'on appelle le monstre. Et ce fils vient en fait dire voilà que lui a péri dans cette fin du monde et qui va du coup nous raconter l'histoire qu'il n'a pas vécue dans le monde qu'il n'a pas vécu puisque les humains ont décidé de le détruire avant. Et donc il a, avant de faire une série de tableaux qui sont autant de scènes de la vie qu'il n'a pas vécue, il nous lance cette phrase: si ce qui arrive paraît tel que des êtres humains ne puissent pas permettre que de telles choses arrivent, c'est que vous n'avez pas lu les histoires de votre temps.
C'est quelque chose qui revient souvent dans la série. Je crois que quelque chose qui grossit d'ailleurs beaucoup au fur et à mesure qu'on lit, parce qu'au départ, on est sur des scènes avec une temporalité et une action des personnages qui est à peu près claire. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus on est comme ça sur des espèces d'élans lyriques qui sont censés nous faire réfléchir, hein, mais qui sont pas toujours très clairs et qui sont presque plus proches de la poésie, quoi. C'est-à-dire, j'imagine que chacun peut imaginer ces scènes et les contempler d'une manière assez différente.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que tout au long de l'œuvre, il y a un peu un passage comme ça du concret et du présent vers une espèce d'abstrait de l'apocalypse. Où en fait après, donc dans la furie des nantis, en fait, l'apocalypse a déjà eu lieu. Et enfin, il y a trois parties dans lesquelles, en résumé, on suit un survivant qui va finalement trouver un groupe de survivants. Qui en fait ont survécu grâce à une base militaire dans laquelle il y avait des réserves hyper imposantes de boîtes de conserve. Il y avait en fait une usine de boîtes de conserve à proximité. Ils ont stocké des boîtes de conserve. Et en fait, cet homme va amener la mort. Et comme tu dis, il y a cette espèce d'envolée vers la poésie où on ne sait pas trop est-ce que c'est vraiment lui qui amène la mort ou pas. Mais tout à coup, les gens se mettent à mourir. Et du coup, en fait, alors qu'au début, il le vénérait presque, il se disait bon sang, il y a quelqu'un qui a survécu, il y a enfin un survivant qui nous a contactés, etc. En fait, ils vont finir par le tuer en l'accusant de tous les maux que eux rencontrent, quoi. Et c'est ça qui clôt un peu le deuxième épisode, la furie des nantis. Et dans Grande Paix, même chose, on a en fait une troisième trajectoire de cette apocalypse où au départ en fait le héros est soldat. Et le troisième tome s'ouvre en fait sur un ordre qui est donné par sa hiérarchie à l'ensemble du peloton. Chaque homme de troupe doit aller tuer un enfant parce qu'en fait il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Il faut diminuer la population locale et la solution de l'état-major, c'est donc que chaque soldat aille tuer un enfant de la rue dans laquelle le soldat habite. Et l'état-major demande à voir le corps du bébé que le soldat a tué pour être sûr que les soldats puissent pas dire qu'ils ont tué un bébé sans vraiment l'avoir tué, etc. Donc il y a quelque chose comme ça de très cruel. Le soldat finalement va tuer l'enfant de sa mère. Et de nouveau, on ne sait pas vraiment si c'est son frère ou pas. On ne sait pas vraiment comment sa mère a eu cet enfant. Mais donc le soldat tue l'enfant de sa mère. Et du coup, en fait, la mère, dans un accès de folie, va emballer des linges dans un baluchon. Et traiter ce baluchon comme un enfant et partir sur les routes avec ce baluchon et vivre comme ça toute une série d'aventures et toute une série de et passer de nouveau par toute une série de tableaux où on ne sait pas trop est-ce que c'est du rêve, est-ce que c'est la réalité. Il y a un moment où elle rencontre un groupe de soldats qui lui disent: mais vous savez, madame, en fait, vous êtes mort, nous sommes tous morts et nous sommes dans le pays des morts sans le savoir. Et donc il y a vraiment une espèce de vertige logique qui rejoint Inflorenza, même si c'est peut-être un peu tôt dans le podcast pour déjà faire des liens, mais à mon avis, on aura l'occasion de reparler plus tard dans ce podcast.
Moi, j'aimerais revenir parce qu'on est parti loin là direct.
Ouais, pardon, tu me demandes le.
Ouais, non, mais pas de souci. Non, je voulais juste revenir sur certains aspects, sur le fait qu'il y a d'ailleurs à plusieurs reprises dans les deux premiers bouquins, parce que j'avoue que j'ai mal fait mes devoirs, j'ai pas lu le troisième. J'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais que il y a une mise en exergue de la posture du dramaturge en fait, c'est-à-dire le dramaturge qui juge le monde, le dramaturge qui va avoir un avis sur ce qui se passe. Alors, visiblement, ici, le dramaturge, il n'est pas pro-armes, il n'est pas pro-guerre, il n'est pas vraiment spécialement pro-militaire. Hein. Il répète à plusieurs reprises. Mais ça se retrouve aussi dans le style, dans la manière dont est rédigée la pièce de théâtre. Donc, dans le premier, donc, rouge et noir et ignorant, là où on a une espèce de scène de la vie de quotidienne comme nous, on pourrait la connaître, quoi. C'est-à-dire pas des soldats qui viennent tuer des bébés. On a par exemple les numéros de chapitre, à chaque fois un mot. Par exemple, là j'ai sous les yeux apprendre, amour, manger, etc. Et un mot qui représente quelque chose. Et quand on observe le bouquin avec plus de détails, en fait, on s'aperçoit que c'est pas tellement un truc qui va nous dire c'est quoi apprendre, c'est quoi manger, ou etc. Mais c'est une espèce de grands mots thématiques, en fait, qui vont dire dans l'histoire que j'ai à vous raconter, qu'est-ce que j'ai à dire sur la fin, sur l'apprentissage, sur quelque chose. Et il y a quelque chose de presque annoncé qui fait que il va prendre plusieurs figures symboliques, comme ça, il va réfléchir autour, quoi. Mais il n'est pas, même pas là pour raconter une histoire, il est juste là pour qu'est-ce que chaque scène peut nous amener à réfléchir, à penser, à conceptualiser, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que Edouard Bond, clairement, il a un avis sur ce qu'il raconte et il n'a pas peur de le mettre en avant, ça c'est sûr. Et effectivement, c'est un avis qui est très antimilitariste, qui est aussi quand même très pessimiste hein, sur la vie
Il
autour de lui.
invective l'humanité d'ailleurs à plusieurs reprises dans le bouquin, quoi. Enfin, pas forcément de manière directe, toujours avec ses accents lyriques, mais enfin, il la juge, il la pointe du doigt, quoi.
Oui, absolument. Absolument. Et ben par exemple, là, j'ai sous la main un passage de Rouge, Noir et Ignorant, hein, où, donc il dit ceux qui voudraient changer le monde par bienveillance devraient apprendre, là où la bienveillance est la plus nécessaire, elle ne peut plus être accordée. Et voilà, ça pour moi c'est très caractéristique de Dorbonne. Comme tu dis bien, il y a plein de moments comme ça où il a ces espèces de grandes phrases et de vérités générales. C'est un peu des pièces à thèse, quoi.
Il y a presque un contraste entre ces moments flous, interprétatifs. On a l'impression d'être dans un jeu de rôle très symbolique ou en tout cas très poétique. Et des moments, c'est vraiment des vérités de jugement sur le monde, quoi. C'est-à-dire, il nous balance une scène. J'ai notamment une scène en tête où donc le fameux monstre se dispute avec sa femme de manière assez violente. Et on ne comprend pas trop le sens de ce qu'on est en train de nous raconter. À la fin, il y a une phrase qui est censée nous dire que, en gros, on n'a pas d'objet de base de haine ou de détestation, mais que la société nous pousse à en avoir un, y compris sur des choses anodines ou autres, quoi. Et à chaque fois, il y a ces espèces de... je sais pas, ça pourrait presque être pas des fables, mais une espèce de conclusion sur ce que chaque scène va nous apporter. Et en fait, chercher du sens plutôt a posteriori qu'essayer de le construire comme on fait en général sur une histoire, quoi.
Oui, alors ça pour moi c'est très caractéristique de Rouge, Noir et Ignorant du premier tome. Sur les deux autres, enfin, je trouve que c'est un peu moins le cas. Enfin, même si c'est vrai que La Furie des Nantis, il y a un petit peu ce truc de voilà, en fait au final, la propriété privée, ça amène nécessairement la jalousie et la méfiance par rapport à son prochain, parce que la personne extérieure qui arrive et qui pourrait être une chance et une richesse, et ben en fait, on va surtout le voir comme un prédateur et comme un agent de destruction des privilèges qu'on s'est octroyés. Et donc, oui, c'est vrai en fait qu'il y a ça dans La Furie des Nantis, dans Grande Paix, j'essaye de m'en souvenir. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de ça.
Ce que
Il y a de ça.
réfléchit aussi beaucoup Edouard Bond, et là on va retrouver peut-être même des trucs à la Mad Max, hein, ou plutôt en l'occurrence plus à la Vermine, ou effectivement à Milvaux qu'on va pas tarder à évoquer, mais c'est sur le fait que quand les gens perdent les connaissances, les savoirs, les infrastructures, aussi les modes de société, c'est-à-dire les habitudes qu'on avait avant de vivre, d'avoir des rituels, je sais pas, autour des repas, autour des actes d'amour, autour de se reproduire pour avoir des enfants, voilà, des petites choses comme ça. Ben, quand on perd ça, en fait, on perd la mémoire et on perd notre humanité. Et ce que tu racontais un peu sur les boîtes de conserve, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, les gens perdent leur humanité parce qu'en fait, ils perdent leur capacité à se souvenir qu'ils sont humains, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose
Oui,
que tu as en
tout
tête.
à fait. Il y a absolument ce truc-là où on sent, mais il s'y accroche, quoi. Dans la furie des nantis, il y a vraiment ce truc où, en fait, quand la personne arrive, quand le nouvel arrivant arrive, il dit, ah, mais toi, c'était quoi ton métier avant? Qu'est-ce que tu savais faire? On va t'interroger, comme ça, on pourra essayer de se souvenir de petites bribes de savoir d'avant, et on pourra, et je me demande même s'ils disent d'ailleurs pas, comme ça, on pourra rester humain, ou comme ça, on pourra retrouver notre humanité. Donc,
Ouais, ça
il y a clairement cette quête d'un renouveau de l'humanité où, en perdant les superstructures, en perdant le savoir, en perdant tout ça, on perd l'humanité et on redevient un peu des animaux, quoi. Il y a plein de scènes où on les voit en fait qui mangent dans les boîtes de conserve avec les doigts et qui se badigeonnent de crasse, et en fait ils puent tous parce qu'ils sont pleins de nourriture à différents stades de décomposition. Et je pense même que l'auteur donne des indications de costumes, etc., qui disent que les gens doivent être souillés, doivent être. Voilà, ils sont vraiment dégueulasses, quoi.
D'ailleurs, ce qui est très intéressant, enfin, toi, tu sauras sûrement beaucoup mieux me renseigner, parce que si j'ai lu 12 pièces de théâtre dans ma vie, ça, on va dire que c'est beaucoup. Et donc, il y en a trois qui sont d'Edward Bond. C'est qu'il y a vraiment, alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques instructions dans la mise en scène à plusieurs reprises, mais sur une mise en scène extrêmement épurée. Par exemple, pour symboliser les repas, il dit que ce qui est important, c'est le couteau. La miche de pain, la table et les chaises sur lesquelles on s'assoit. Et plus tard, c'est des éléments qui vont revenir régulièrement tout au long de l'histoire et qui vont être chargés d'une symbolique. C'est comme si on gardait juste quelques éléments très très épurés, quoi, et que la mise en scène, c'était important qu'elle soit gérée comme ça parce qu'après, il y avait une symbolique derrière, quoi. Enfin, je sais pas si c'était son intention exactement, mais.
Non, si, je pense qu'il y a vraiment, mais ça, c'est un courant qui traverse tout le XXe siècle, c'est que vraiment, il y a cette volonté d'épurer la scénographie, et du coup, en fait, que chaque élément présent ait du sens. Et ça, chez Edouard Bond, c'est très, très fort, c'est que il va nous présenter parfois des scènes dans des déserts et des choses, mais en fait, souvent, les personnages vont prendre en charge d'expliquer le décor, de montrer le décor, et en fait, du coup, sur scène, il n'y a pas le décor. Il y a juste quelques éléments qui vont vraiment revêtir un sens très important. Mais par exemple, dans la troisième partie, la mère qui a son baluchon, elle a son baluchon pendant toute la pièce. Le baluchon, il est là. Mais effectivement, pendant les scènes de repas, l'auteur demande qu'on ait juste une miche de pain qu'on coupe avec un couteau et qu'on se passe du pain. Et les personnages disent qu'est-ce que c'est le repas, ils disent ah, mange ta soupe et tout ça. Mais les acteurs, eux, ils font que manger une tranche de pain. Et donc c'est vraiment cette symbolique et cette recherche du très minimal pour signifier plus, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est assez caractéristique du XXe siècle. Avant, c'est des mises en scène beaucoup plus réalistes, enfin, c'est une écriture beaucoup plus réaliste où on va essayer de représenter la salle de bal, on va essayer de représenter le banquet, etc. Et au XXe siècle, ça disparaît, ça.
Ouais. D'ailleurs, il ne suggérait même pas des mises en scène comme je peux le voir aujourd'hui quand je vais au théâtre parfois, c'est-à-dire à base de lumière, à base de bruit sonore. C'est plutôt souvent des voix. Alors, soit effectivement directement le personnage, soit des fois des notions plus floues, comme des chœurs qui parlent et qui expliquent vraiment l'histoire de l'Apocalypse, de comment ça s'est construit, etc. C'est quand même assez particulier en termes de mise en scène. On pourra en parler quand on va évoquer le jeu de rôle par la suite. Mais d'imaginer comme ça un long monologue à chaque fois de mise en scène qui te raconte l'histoire qui se passe avant l'introduction des personnages, quoi. Et qui sont parfois assez longs, en fait, quand on y regarde bien.
Oui, il y a régulièrement comme ça des espèces de longues prises de parole, des espèces de logorées, alors parfois d'un personnage, parfois d'un cœur, etc. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, moi, j'ai l'impression que Edouard Bond, il avait vraiment une vision très très claire de ce qu'il voulait de ces différents monologues, parce qu'il y en a qui sont structurés. Ben, par exemple, là, j'ai sous les yeux un monologue de la mère du monstre qui dure pendant une page et demie. Et il y a donc la mère, et puis une partie du texte, et puis deux, et une autre partie du texte. Et bon, c'est évident que la mère va pas dire 1 et 2, mais donc ça veut dire que pour l'auteur, là, il y a deux parties dans le monologue et qu'il faut le faire sentir sur scène, quoi, et que c'est signifiant sur scène.
C'est vrai que ça gêne presque la lecture, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on est toujours parsemé de ces trucs entrecoupés, où parfois on a l'impression qu'il déclame de la poésie, puis après il y a une scène de dialogue, voilà. Et pourtant c'est censé être...
Ouais. Et puis même sur, parce que par exemple le monstre, donc il a cette espèce de rôle de narrateur dans la première partie, où il va présenter un peu les différents tableaux, et puis il y a un tableau où tout à coup il se fait cracher dessus. Et il se fait cracher dessus par, en fait, lui-même, par le personnage qu'il était censé incarner dans la scène. Et donc, au niveau... Moi, en fait, quand j'ai dû relire deux, trois fois la scène, parce qu'au début, je pensais que le garçon, en fait, avait craché sur l'autre personnage. Et non, en fait, il avait craché sur le monstre. Et je me dis, ah oui, mais le monstre, il n'était pas censé être là. C'est un narrateur, il n'est pas vraiment dans la scène. Et puis, en fait, si, tout à coup, il s'incarne dans la scène, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, hop, après ça, il est de nouveau plus dans la scène. Et voilà, il y a des choses...
J'ai l'impression qu'il y a un gros travail comme ça de mise en abyme, y compris de... Moi, c'est quelque chose, pareil, j'ai dû le relire plusieurs fois pour le podcast, mais presque de... Et là, je pense, c'est quelque chose qu'on va effectivement pas retrouver dans Influenza, parce que c'est un peu technique, mais il y a un port très, très au méta et très au rapport d'autorité. Par exemple, au début de l'histoire, il annonce qu'effectivement, ça va être qu'un narrateur flou, et il perd sa position de narrateur. Plus tard, quand il est confronté à son fils, il est censé être un rôle d'autorité qui va déterminer ce qu'est l'humanité. Et bon, on va se permettre d'un petit peu spoiler, je pense, mais sur ce genre d'ouvrage, c'est pas super grave. Mais en fait, c'est son propre fils qui va lui apprendre l'humanité. Et j'ai l'impression qu'il y a l'auteur qui joue régulièrement à poser des cadres, des barrières et à les contester, à les remettre en question en permanence, quoi.
Oui. Oui, absolument. Mais il me semble qu'Edward Bond, il a vraiment eu un rapport, au-delà de ses pièces-ci, il a eu un rapport à l'éducation, il a écrit beaucoup de pièces pour la jeunesse, et avec vraiment cette volonté de remettre en question le modèle dominant, de remettre en question un certain patriarcat de son époque, etc., quoi. Ok, super.
Donc, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais que vu qu'on en a beaucoup parlé... Bon, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Bon, on pourrait encore parler d'Edward Bond une bonne partie de la nuit. Mais moi, je serais quand même curieuse de pouvoir le confronter à Influenza, qui pour moi, le jeu qui s'en rapproche le plus, est-ce qu'il a vraiment permis de faire du Edward Bond, je sais pas. Mais il y a des occurrences, en tout cas, qui me troublent. Et notamment, ce que je voulais évoquer avec toi, c'est le rapport au monstrueux qui est quand même vachement mise en valeur dans Edward Bond. D'ailleurs, on pourrait questionner le fait que, par exemple, le personnage du monstre est peut-être le personnage le moins monstrueux de la série. Et de la même manière que les monstres dans Influenza, enfin, je ne sais pas si toi, tu as cette même expérience, mais sont aussi des êtres atypiques qui questionnent la monstruosité plutôt qui ne l'expriment, par exemple.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah d'ailleurs, le monstre, en fait, il s'appelle le monstre, mais dans les différentes scènes qu'il est censé nous représenter, il est incarné par un homme. Et tout du long, je pense,
il est censé avoir le visage brûlé, je crois.
Ouais, c'est bien possible, les vêtements en lambeaux, etc. Mais, ouais. Mais en fait, voilà.
J'imagine, c'est un symbole de la bombe atomique, quoi. Un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Il nous dit la peau du monstre, ses cheveux, ses vêtements sont gris et carbonisés entièrement noirs, qu'il apparaissent comme taillés dans un morceau de charbon. Mais pour autant, en fait, comme on disait plus tôt, je pense qu'Edward Bond, il essaye de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a d'humain, qu'est-ce qui nous reste d'humain, malgré la guerre, malgré la menace atomique, malgré la militarisation du monde et tout ça. Et dans Influenza, il y a beaucoup de ça. Je pense que Thomas Meunier, il a un rapport à la monstruosité qui parfois tient un peu de la fascination et de la séduction comme ça. Et le monstre, c'est un peu c'est une figure atypique et du coup attirante et repoussante en même temps, quoi.
Est-ce que tu veux dire, moi, c'est un semi-troll quand je dis ça, mais que Thomas Meunier, c'est un peu le Tim Burton du jeu de rôle?
Ben, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Tout à fait.
qu'est-ce qui fait, selon toi, que on peut facilement, enfin si jamais c'est le cas, on peut facilement incarner un monstre, on peut facilement être amené à jouer des personnages monstrueux de Influenza. Donc je rappelle que le pitch du jeu, c'est jouer des héros, des salauds et des martyrs. Et l'auteur lui-même dit qu'on jongle un petit peu entre ces rôles. Mais pour toi, qu'est-ce qui te permet de parler de ça, tout simplement, quoi? On sait à peu près comment Edward Bond procède, un peu, on en a un peu parlé. Mais comment est-ce qu'Influenza procède, selon toi?
Mais en tout cas, dans mon expérience d'Influenza, ce qui permet de le faire beaucoup, en fait, c'est le système d'instance. Ou si tu décides d'incarner un monstre, en fait, tu seras. Enfin, le monstre, pour moi, il est déshumanisé à partir du moment où on lui accorde jamais la parole et où on le considère toujours de loin et on le considère toujours, on l'objectifie, en fait. Ça devient la menace, ça devient le monstre. Alors que dans Influenza, si tu incarnes un monstre, eh ben, t'as des instances où tu peux donner ton point de vue sur les choses, où tu peux développer ce que tu as envie de développer et où tu es au centre de ce qui se passe, quoi. Et ça, à mon avis, ça permet de donner de la. De donner. Ça, à mon avis, ça permet de donner de la profondeur au personnage et du coup, de pas juste être un monstre. Mais être un monstre qui est un monstre parce qu'il a de bonnes raisons de l'être ou parce qu'on l'a condamné à être comme ça, etc. Et en plus, ouais, comme tu dis, comme en fait les personnages d'Influenza, ils changent énormément au cours d'une partie. Un personnage qui paraissait être totalement un héros au début de la partie, en fait, à la fin de la partie, on peut se dire non, mais en fait, c'est un monstre, ce personnage. Et à l'inverse, un personnage qui paraissait être monstrueux à sa première phrase, il va en fait ressortir totalement comme un martyr ou comme un héros au final et totalement sortir de cette condition de monstre, quoi.
Est-ce que tu connais la référence, enfin la citation de Suzanne Striker sur les monstres?
Non.
En fait, alors je sais que c'est une militante queer, je ne sais pas exactement, donc, quoi, mais elle a dû faire pas mal d'écrits, d'essais sur le sujet. Et en fait, elle disait que si on reprend la figure historique du monstre, le monstre, elle se base, je crois, plutôt sur la mythologie grecque, sur le fait qu'un monstre, c'est pas forcément quelque chose de laid ou de repoussant ou autre, ça c'est notre interprétation du chose, mais c'est un monstre dans le sens où il n'est pas humain, dans le sens où il n'a pas été créé par les dieux, quoi. Et du coup, vu qu'il n'est pas créé par les dieux, il faut qu'il se trouve un sens, il faut qu'il se trouve une utilité. Et en fait, le monstre, c'est censé être l'être, l'entité, l'individu, ce que tu veux, qui va faire le passage entre l'humain et les dieux, parce que par essence, il est dans un espèce d'espace un peu étrange entre les deux, quoi. Et donc, Suzanne le prend pas mal au niveau des imageries queer pour parler des marginaux, mais je trouve ça aussi intéressant, l'idée d'entités qui n'appartiennent ni vraiment au divin, ni vraiment à l'humain, quoi, et qui peuvent aussi faire office de guide, quoi.
Bah en plus dans Influenza ça s'imbrique hyper bien parce que les Orla qui sont une espèce de monstre d'Influenza ils sont créés un peu par les Grégores un peu on sait pas trop comment on sait pas trop d'où ils viennent donc ils ont ce rapport à l'inconnu et à l'horreur qui parcourt Influenza et du coup ouais c'est pour moi ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est super intéressant.
Ouais, parce qu'en fait, dans Influenza, c'est inspiré du Orla de Maupassant, de toute façon. Donc, c'est des constellations de croyances, en fait, les Orla. Les Orla deviennent un petit peu ce qu'on met derrière elle.
Ouais.
Et justement, on parlait des souvenirs et de la mémoire. C'est quelque chose de central dans Milvaux. Je crois que tu as fait un article récemment, justement, qui détaille un petit peu. Donc les principaux marqueurs qui sont souvent évoqués, donc les ruines, le fait d'avoir un monde en ruine, ça dans Edward Bond on le connaît bien, le ouais. Fait d'avoir le syndrome de l'oubli, le fait que la mémoire s'étiole, quoi, se dégénère un petit peu en quelque sorte. Et donc ces fameux Orla qui sont les monstres et cet égrégore qui sont une espèce de magie mutante. Mais enfin moi ce qui va m'intéresser plutôt c'est cet aspect de ruine, cet aspect d'oubli. Donc, qui va créer une humanité particulière et toutes ces légendes autour des Orla, c'est-à-dire autour de ce qu'on va nommer comme monstre.
Ouais, au niveau de l'oubli, Ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans l'univers de Milvaux, c'est que l'oubli touche certaines régions du cerveau. Et donc, bon, concrètement, l'oubli, en fait, touche nos relations affectives, nos sentiments, nos souvenirs chauds, quoi, nos souvenirs des personnes qu'on a aimées ou qu'on a détestées, des épreuves qu'on a dû traverser. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, les personnages peuvent se retrouver à poursuivre une vengeance, mais ils savent plus exactement qui est-ce qu'ils doivent venger, mais ils sont persuadés qu'ils doivent le venger. Ils peuvent vivre comme ça des espèces de vie où en fait ils s'inventent leur vie parce que ils ont oublié qui ils étaient, ils ont oublié leur lien au reste du monde. Et ça peut vachement questionner sur tiens, mais qu'est-ce qui fait d'un être humain un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui nous constitue? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que si tout à coup on oublie qui est notre père et qui est notre mère, on est encore nous ou est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Et en fait, ça crée plein de jeux à table.
Entre amateuristes d'influenza, on a l'habitude de dire qu'à influenza, on peut très facilement jouer des monstres ou on va dire des allégories de quelque chose en général. On peut facilement dire que c'est assez monstrueux parce que justement, ce n'est pas humain.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, les personnages ne seront pas construits par un métier, une occupation ou savoir s'ils savent crocheter des serrures ou préparer une aubergine panée. Ce qui va nous intéresser, c'est la volonté du personnage, comme tu l'as si bien dit, en fait. Et l'une des règles de base, il peut y avoir des règles optionnelles, mais la règle de base, c'est qu'on va écrire une première phrase sur notre personnage avec ce qu'il veut. On n'est pas obligé
Ouais.
d'écrire son nom, on n'est pas obligé de détailler son genre, on n'est pas obligé de présenter son apparence, mais on est contrainte de devoir présenter une volonté. Il y a peut-être quelque chose de monstrueux, d'effrayant ou terrible ou de peut-être inhumain d'un personnage qui n'est qu'une volonté en fait. Et qui, comme tu dis, est peut-être totalement fantasmé. On peut facilement créer un personnage qui cherche juste un souvenir qui n'existe peut-être pas, quoi. Mais c'est ce qui va le constituer, c'est ce qui va le construire.
Ouais, et en même temps, je sais pas, est-ce que c'est vraiment monstrueux de considérer qu'une personne, au départ, c'est une volonté? Est-ce que c'est plus monstrueux que de considérer qu'au départ, une personne, c'est des muscles et une capacité à se battre à l'épée ou à se battre à l'arc ou à préparer l'aubergine panée? Enfin, pour moi, c'est des visions différentes de qu'est-ce qui est important et de qu'est-ce qui est au centre, mais c'est
Ouais.
tout aussi intéressant, sinon plus, quoi.
C'est ça. Mais du coup, ça rappelle pas mal. Alors, il y a plein de pièces de théâtre qui font ça, sûrement pas toutes, mais plein de pièces. C'est par exemple, si je prends les personnages typiques du triptyque d'Edward Bond, on va avoir une femme, on va avoir même parfois la première femme. On va avoir un garçon, un jeune garçon, le fils d'eux, le fameux monstre, et jamais on emploie un nom pareil. Les personnages sont plutôt être aussi animés par leur volonté, par leur rôle les uns par rapport aux autres, quoi. D'ailleurs, les préparations de scénario, entre guillemets, pour Influenza s'appellent justement des théâtres.
Ouais, tout à fait. Et en plus, bon, c'est en plus si on dit par exemple la première femme, la deuxième femme, ça ne désigne pas un ordre d'importance dans le groupe. Ça désigne un ordre d'apparition sur scène. Donc il y a quelque chose de très pratico-pratique que la première femme qui apparaît, on va l'appeler femme 1 ou la première femme et puis etc. quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a un truc. Alors moi, j'ai même connu des pièces. Enfin, je connais des pièces qui même n'ont pas de personnages, qui n'ont que des tirets. Et c'est au metteur en scène ou à la metteuse en scène et à la troupe à se répartir et à créer même les personnages de toute pièce, en fait, en rassemblant des répliques dont ils estiment qu'elles peuvent coller ensemble et créer un personnage ensemble et faire du sens ensemble. Mais voilà, c'est juste un ensemble de tirets qui se suivent. Et apparemment, il y a des gens qui montent ces pièces-là avec deux ou trois personnages et il y a des gens qui les montent avec 12 personnages. Et
On
les
dirait
deux versions se valent.
presque du grandeur nature expérimentale ce que tu me décris.
Donc ouais, mais donc ouais, dans Influenza, c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment où, et ça je trouve c'est une des très chouettes choses dans ce jeu, c'est que il y a un personnage qui se construit vraiment en direct et où au départ c'est juste un tiret sur une feuille avec avec une phrase qui exprime une volonté. Et puis à la fin, il y aura des phrases qui seront barrées, il y aura des phrases qui seront effacées, il y aura des phrases qui voudront plus rien dire, ou des phrases qui seront juste composées de 3-4 mots, ou si on le relit une semaine plus tard, on saura même plus ce que ça voulait dire. Mais sur le moment, ça avait vraiment un sens de ouf et c'était cette phrase-là qu'il fallait mettre. Et ça, c'est vraiment génial.
Même ça, avec l'expérience, tu te mets à écrire des phrases avec des points d'exclamation, des onomatopées, des petites choses comme ça.
Juste moi, en fait, j'ai relu, du coup, en préparation du podcast, j'ai relu les conseils d'Influenza. Et c'est ouf parce qu'il y a plein de, choses en fait dans les conseils d'Influenza qui me font vachement penser à Edward Bond. Par exemple, il dit le jeu ne définit pas ce qu'est un héros, un salaud ou un martyr. L'intérêt est justement que chacun se fasse sa propre opinion. Et je trouve que surtout dans la troisième partie, dans la Grande Paix, il y a vraiment ce truc où parfois les personnages ont l'air de faire des choses absurdes et on ne sait pas trop pourquoi. Et puis en fait, l'intérêt c'est justement qu'on se pose des questions et qu'on se demande pourquoi ils agissent et qu'on se mette à réfléchir, quoi. Puis il y a aussi une maîtrise du temps, enfin un temps qui est très lâche et qui est très élastique dans Edward Bond. Et ça, moi en tout cas, c'est la seule fois où je l'ai vu. Il y a parfois des didascalies qui disent plusieurs années plus tard, et boum, on fait une nouvelle scène comme ça. Et en fait, voilà, parfois on a plusieurs tableaux qui s'enchaînent et qui sont dans la même journée, et puis parfois, tac, il y a plusieurs années qui se passent. Et ça, c'est un truc que le théâtre fait très peu, qu'Edouard Bond fait, et que Influenza nous invite à faire, notamment grâce à ce système d'instances où on peut faire des ellipses quand on veut, comme on veut. À la limite, on fait une petite pause méta, on se met d'accord entre nous, et puis après, hop là, on fait ok, ben en fait, on est 50 ans plus tard, nos personnages, ils sont au crépuscule de leur vie, le monde a complètement changé, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bam, on peut y aller, quoi.
Le jeu le dit lui-même, en fait, on peut passer toute une instance, et par exemple, un gros conflit de masse où il y a 5 ou 6 personnes impliquées sur un baiser, et on peut passer 300 ans en 10 secondes de jeu, parce que...
Ouais.
Un jeu souligne beaucoup l'enjeu, en fait. L'important, c'est l'enjeu, ce que ça raconte. Et ça se définit comme un jeu de rôle esthétique, sûrement pas à tort, en fait. Parce qu'en fait, toute la cohérence narrative, c'est juste de l'esthétique. À toi de la dépeindre. Mais ce qui va compter, c'est l'enjeu, c'est qu'il soit fort, qu'il soit intense.
Ouais, c'est ça, qu'on ait raconté une belle histoire à la fin qui nous a fait rêver, quoi.
C'est ça. Par contre, du coup, y a un gros aspect politique dans Edward Bond. Donc dans Pièces de guerre, à chaque fois on redit l'auteur, enfin plutôt dire Pièces de guerre. Je pense, une fois que nos auditeurs seront finis d'écouter ce podcast, ils auront déjà tout oublié. Alors je sais pas si ça me gêne, mais je sais que Thomas Meunier l'avait dit une fois, même si je pense, lui, je pense pas, peut-être pas forcément toujours, mais il a dit qu'il revendiquait le fait de faire des jeux qui ne soient pas politiques, en fait. Alors, comme pas mal de gens le savent sur un podcast, je crois pas à ce genre d'assertion, je crois pas que ce soit possible. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, dans une partie d'Influenza, au-delà du fait qu'on joue des victoires à la Pyrrhus, c'est comme tu le dis toi-même, par exemple, de jugement de morale sur les choses, quoi. Les personnages peuvent être héros à leur manière, peuvent être des martyrs à leur manière et peuvent être des salauds à leur manière, quoi. Ça va être un peu à la table d'interpréter ces choses. C'est quelque chose que tu as regretté ou au contraire, toi, tu as trouvé qu'il y avait un espace justement pour ces jugements moraux ou ces réflexions sur le monde en général?
Dans Influenza, alors ça, j'en parle un tout petit peu dans ma critique, mais je trouve qu'il y a un... Bon, alors, moi, je te rejoins tout à fait. Pour moi, tout est politique et la neutralité n'existe pas, tout ça. Et dans Influenza, en fait, le fait de dire voilà, on va laisser un espace où chacun peut s'exprimer, déjà, en fait, c'est quelque part hyper politique, c'est-à-dire la parole de chacun compte. Et moi, il y a des parties où du coup, il y avait des joueuses et des joueurs que, en général, j'entendais très rarement parce que j'avais déjà joué plusieurs fois avec eux au club que je fréquente. Et là, tout à coup, ils explosaient parce qu'en fait, on leur laissait le droit. À la parole dominante à un endroit, quoi. Puis aussi ce qu'on a dit, que le personnage est décrit par une phrase et pas par un genre, etc. En fait, quelque part, c'est politique. C'est dire, le genre ne définit pas forcément la personne, la fonction ne définit pas forcément la personne. Après, sur des messages politiques forts et orientés, dans Inflorenza, non, moi, ça, j'ai jamais eu. C'était plus effectivement a posteriori où ça suscitait des réflexions chez nous sur les thèmes abordés, la manière dont on les avait traités, etc. Mais je pense que c'est un jeu qui se veut essentiellement esthétique, qui se donne des moyens qui sont par ailleurs politiques d'arriver à cette esthétique, mais c'est pas comme Lady Rossa dont on a pu parler dans ton podcast sur l'éthique et la morale en jeu de rôle, ou Dark Heresy, ou d'autres jeux qui ont un propos très fort. Pardon.
Monostatos.
Oui, ou Monostatos, effectivement, de Fabien Hinven. Enfin voilà, ça c'est des jeux qui ont vraiment un propos. Je pense pas qu'Inflorenza ait un propos. Je pense pas.
La petite nuance que je trouve, même s'il faut pas seulement se pencher sur Inflorenza, mais également sur l'univers étendu de Milvaux, mais qui peut être très intéressant d'utiliser. Moi, j'ai la vieille version, j'avais la description de l'univers en même temps. Tous les monstres dans Inflorenza et donc dans Milvaux, mais dans ce qu'on peut être amené à jouer dans Inflorenza, sont humains en fait. C'est juste ils ont eu des soucis par exemple avec la génétique, ils ont eu des soucis avec les mutations, avec l'égrégore qui est donc une espèce d'agglomérat de croyances, de peurs, de superstitions qui fait que ça va changer les gens. Mais à chaque fois, tout le monde est humain, quoi. On peut croiser des personnages horribles, au visage déformé, par exemple. Vraiment digne des pires trucs du Silent Hill, mais à chaque fois, c'est des humains, quoi. Alors, c'est vrai que je suis parfois un peu déçu que dans un jeu de rôle qui s'inspire autant de la tragédie, il n'y ait pas des fois une réflexion aussi sur l'humain, comme tu peux avoir dans Antigone, par exemple. En fait, il y a plein de réflexions dans Antigone. Il y a quand même une réflexion de là-dessus, c'est-à-dire c'est sur que la monstruosité, ben c'est une humanité qui a juste évolué. Et il y a toute une réflexion, c'est là où le jeu peut être assez dur éthiquement, c'est sur le fait, pour moi ça va au-delà de ce que va Edward Bond en fait. Edward Bond reste dans cette vision pessimiste, un peu sale, etc. Thomas essaie de réfléchir à, il le dit à un moment dans son bouquin, l'humanité en fait est au bord du précipice. Mais elle peut encore faire quelque chose. Elle va peut-être devoir changer, elle va peut-être devoir muter, elle va peut-être devoir renoncer à une partie d'elle-même, quoi. Même si c'est des thématiques qui sont très présentes dans Edward Bond, mais il y a une volonté de peut-être aller au-delà. Peut-être parce que c'est un délire de rôliste et qu'on peut faire des méchants badass avec des pouvoirs en décrépitude, etc.
Oui, peut-être. Et puis je me dis aussi peut-être, Edward Bond, il me semble qu'il a écrit sa trilogie dans les années. Il a écrit sa trilogie dans les années 80. Donc je pense aussi que c'était une autre période. Aujourd'hui, enfin moi, de plus en plus, je me rapproche de, enfin je me documente sur la théorie de l'effondrement, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose chez Thomas de face à cette catastrophe qui arrive, l'humanité doit s'adapter et l'humanité doit trouver des voies différentes qui lui paraissent peut-être horribles aujourd'hui, mais qui en fait seront les siennes et lui permettront de survivre et de s'adapter, et peut-être pour un mieux, quoi.
Ouais, d'aller de l'avant et d'évoluer, quoi, même si c'est difficile.
Ouais, absolument. Et ça, pour moi, c'est très actuel chez Thomas Meunier. Et je pense que Edward Bond, il n'était pas il était dans un truc très très différent, quoi.
Ouais, il y a aussi toute l'école post-Miyazaki qui était dans un certain état d'esprit, de même que j'ai l'impression que tous les gens qui ont découvert par exemple les horreurs de l'URSS, ça a beaucoup influencé leurs écrits après coup, quoi.
Ben c'est ça. C'est ça, dans les années 80, il y a quand même tout un truc où la guerre froide n'est pas finie, et donc il y a quand même toujours cette espèce de missiles qu'on se pointe partout. Et d'ailleurs, Edward Bond, il n'arrête pas de le dire, que la Terre était transformée en une espèce de champ de missiles où en fait l'humanité entière marchait sur la pointe des pieds de peur de réveiller les missiles et de déclencher l'apocalypse et de détruire la Terre. Et chez Thomas Meunier, je pense que voilà, il y a d'autres problématiques, et il y a un autre cadre qui est posé parce que cette guerre est finie, notamment, quoi.
Ouais, intéressant. Ah, du coup, on fait un peu le podcast à l'envers, mais si je vais retomber sur mes pattes juste une fois, est-ce que pour toi, peut-être en conclusion, parce que je trouve qu'on a fait un joli tour d'horizon, même si on peut toujours continuer à développer un petit peu, hein, mais est-ce que pour toi, par exemple, tu as relu Edouard Bond récemment, moi aussi, enfin, j'amènerai mon avis, mais est-ce qu'il y a des choses, par exemple, des sensations que tu as eues avec Edouard Bond que tu n'as pas forcément retrouvées avec Influenza? Je parlais du GN notamment tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses en termes de forme de jeu, ou en termes de contenu du jeu de rôle Influenza qui fait que tu t'es dit j'aurais quand même bien aimé pouvoir jouer ce type de scène, quoi? Ou c'est pas obligé.
Non, 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 je réfléchis. Bah pour moi, les deux, en fait, il y a des similitudes, effectivement. Après, les. Excuse-moi?
Non, je toussais, excusez-moi, c'est
Ah,
excusez.
pardon. Pardon. En fait, le truc, c'est que moi, Edward Bond, ça m'a, en fait, le relire comme ça m'a de nouveau donné envie de le mettre en scène ou de jouer dedans, parce que j'avais déjà eu la première fois que j'avais lu, parce que je trouve qu'il y a une matière textuelle qui est vraiment super. Il y a, comme tu disais, des espèces de grands monologues tout à coup très poétiques qui sont très beaux, et il y a une espèce d'économie de moyens qui fait que ça fonctionne très bien. Et dans Inflorenza, c'est un plaisir très différent parce qu'on est en On est en direct, on écrit comme ça en parlant ensemble dans un cadre très différent. Et en plus, c'est vrai que dans Edouard Bond, en fait, tu le lis ou tu vas le voir en te disant, ah, je vais voir un truc qui va être contre la guerre et qui va être contre la déshumanisation de l'humanité actuellement, etc. Influenza, tu t'assieds à table, et tu sais pas ce qui va apparaître, tu sais pas ce qui va naître de ça. Tu sais qu'il y aura des choses peut-être un peu dérangeantes, que ça va peut-être partir un peu dans tous les sens et qu'au final, tu auras hyper bien voyagé dans les deux cas. Mais dans un premier cas, j'ai l'impression qu'Edouard Bond, tu sais un peu où tu vas, alors qu'Influenza, tu sais dans quelle voiture tu montes, mais tu sais pas où est-ce qu'elle va t'emmener, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment des plaisirs très, très différents.
Ok, intéressant. Ben, pour ma part, le jeu, en fait, moi, j'ai pu m'empêcher de penser à. Ça me fait pas mal penser, en fait, au. Ouais, ça me fait pas mal penser, en fait, au blog Ristretto Revenante, qui évoque pas mal le jeu symbolique. D'ailleurs, l'auteur a sorti, l'auteur des articles a sorti récemment La Clé du Nuage, qui est censé explorer ce genre de choses, ou le jeu poétique. Et peut-être au-delà des cadres de jeu, il y a peut-être des techniques de jeu à développer, ben, peut-être un peu comme toi, tu as pu le faire avec tes signes gestuels, pour vraiment arriver à cette richesse. J'ai joué très récemment au Destin de Juliette, où il n'y a pas grand-chose en termes d'éléments de jeu, si ce n'est une description d'une série de scénettes de pièces de théâtre avec le rôle de chaque personnage, en fait. Et j'ai vraiment découvert, alors c'est certainement une sensation que tu connais beaucoup mieux que moi, mais cette sensation de juste se concentrer sur le texte et sur ce qu'on va dire, en fait, sur le choix des mots, sur la manière dont on va les prononcer, sur. Voilà. Alors c'était certainement beaucoup moins bien que ce que peut faire un acteur professionnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai très rarement vu en jeu de rôle, ce fait de se pouvoir se concentrer sur un texte précis et sur ce que tu dis avec ton texte, quoi. Ce qui. Et généralement, pas tellement de cas des parties d'Influenza auxquelles j'ai joué, en tout cas.
Ben, moi, il y a eu des parties d'Influenza. Par exemple, je me souviens d'une partie où j'ai. Alors, en plus, c'était un théâtre corse. On n'arrivait pas vraiment à commencer la partie. On disait, ouais, allez, qui commence, qui commence, qui commence. Et puis, en fait, tout à coup, j'ai sorti une espèce de truc slamé, comme ça, un peu déclamé, qui a duré, je crois que ça a dû durer 3 minutes montre en main. Donc c'était super long. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un monologue de théâtre que je disais, en fait. Et qui présentait, c'était vraiment le monologue d'ouverture de la pièce de théâtre qu'on allait jouer. Et donc là, de nouveau, par ce système d'instances, Inflorenza le permet. Parce que dans un autre jeu de rôle, je me serais dit, oh putain, je monopolise la parole, c'est horrible et tout. Alors que là, j'ai pris la parole, j'ai fait mon truc. À la fin, je fais voilà, je termine mon instance sans conflit, je tire mon dé, je fais ma phrase, j'écris ma phrase suivant. Bam. Et Influenza permet ça par sa structure de jeu.
Alors, ce que je propose, vu que c'est très rare qu'on parle de théâtre et peut-être ça arrivera jamais avant plusieurs années, pour nos rôlistes, nos fans de Murder et nos génistes qui potentiellement pourraient nous écouter, est-ce que tu aurais une pièce de théâtre à conseiller? Je sais que c'est beau de trouver, mais
Ah, le piège, tu balances ça comme ça. Je réfléchis.
C'est la magie du montage, hein. Tu peux réfléchir 10
Ah
minutes,
oui,
chambre.
ça. Alors, je vais aller vite voir la petite bibliothèque de pièces de théâtre que j'ai. Hop. Pour aller quand même un peu regarder. Ah oui, moi, il y a. Alors, il y a plusieurs choses que je conseillerais vraiment. Il y a une série de quatre pièces de moi, de Wajdi Mouawad, qui est un auteur et metteur en scène québécois d'origine libanaise, qui s'appelle Le sang des promesses. D'ailleurs, un de ces, le deuxième épisode de cette quadrilogie, Incendie, a été adapté en film. C'est un film qui a eu un assez gros succès, qui est sorti au cinéma et tout ça. Ça, c'est vraiment super. Sinon, dans le style d'Edouard Bonne, il y a Heiner Müller qui fait aussi des pièces qui, là, en fait, revisitent un peu des mythes antiques ou des mythes du théâtre, genre Hamlet et tout ça, mais en les mettant à la sauce contemporaine, en les mettant avec des problématiques de son temps. Et puis, troisième truc, parce que oui, je me permets d'en citer plein. Mais troisième truc, c'est Anya Ehling, qui est une jeune autrice allemande, qui a écrit notamment un truc qui s'appelle Mousson et Tristesse animale noire, qui sont deux pièces qui, à chaque fois que je les lis, me bouleversent au plus haut point. Là, c'est vraiment du drame contemporain. Ça parle d'abandon, ça parle de partir, de tout claquer pour aller se retrouver, ça parle de drame personnel, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est très contemporain. Donc voilà, Wajdi Mouawad, Heiner Müller et Anya Ehling.
S'il y a des choses spécifiques à proposer, on pourra aussi les partager dans l'article du podcast. Moi, comme je disais, j'ai dû lire 12 pièces de théâtre à tout casser. Donc, la seule pièce de théâtre, c'est celle que je conseille tout le temps. Je dois d'ailleurs finir un jour un théâtre pour une Flandre très expérimentale sur le sujet, mais je ne sais pas si
Ah, c'est trop bien ça.
qu'un jour quelqu'un d'autre pourra jouer à ce théâtre si je ne suis pas là, quoi. Ça, c'est vraiment très, très barré. Parce que l'idée, c'était de jouer donc au lieu d'avoir parce que dans Influenza, donc on se balade de thème en thème en fonction de ce qu'on va raconter. Et là, l'idée, c'était de se balader dans les différentes scènes d'une pièce de théâtre dans le désordre. Et donc cette pièce, c'est une pièce très tragique qui amène beaucoup à réfléchir aux notions d'amour et de monstruosité et qui était une époque où un peu tout le monde était déprimé, je pense, en francophonie. Et donc c'est une pièce d'Albert Camus qui s'appelle Le Malentendu. Et qui raconte les malentendus de l'existence, qui parle de pauvreté, qui parle de tristesse, qui parle d'abandon. On peut pas raconter grand-chose sur la pièce, mais c'est une pièce très courte et qui est directement présentée comme une très grande tragédie. C'est pour ça que j'aimais bien l'idée de la jouer dans le désordre, parce que je pense que les tragédies sont assez propices à ça. Et voilà, c'était une très chouette expérience. Albert Camus a fait des pièces beaucoup plus cryptiques et beaucoup moins accessibles. Mais voilà, le malentendu, c'est une pièce très triste et que je vous recommande.
Ah ben je connais pas, j'irai lire. C'est chouette.
Je remercie donc Madame Constant, ma prof de français, qui m'a partagé Édouard Bombe et qui m'a offert les intégrales d'Albert Camus, où il y avait donc Caligula qui a donné un théâtre pour Influenza et le malentendu, qui est aussi une pièce que j'adore. Voilà, le mot de la fin, Félandra.
Eh ben, merci de m'avoir poussé à relire Édouard Bonne. Merci de m'avoir invité sur ce podcast, de m'avoir permis de parler de tout ça avec toi pendant 1 heure. C'était vraiment super.
Ouais, et puis c'est un podcast assez court, on ne s'est pas étalé sur 2 heures, qui est souvent le truc, ce petit format à deux, j'essaierai de le renouveler. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que peut-être un jour, dans quelques temps, on va parler de comédie romantique, qui risque d'être encore un schéma intéressant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Et puis, bonne lecture et bonne partie.